Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons déjà Pancho Hôtelier. Bonjour Pancho.
Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs.
Donc on présente Pancho en disant qu'il est de l'association Urugne-Bidassoa Environnement et on va parler avec lui de la ligne de grande vitesse. Pour cela, nous avons aussi Fabrice ici, qui est celui qui va un peu mener l'interview. Donc tu peux saluer aussi Fabrice.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et quand tu veux, on peut commencer avec les questions.
Bah oui, c'est tout bon, moi je.
Vas-y.
Alors bonjour. Je voudrais savoir où en est aujourd'hui le projet du LGV actuellement.
Alors, le projet lui-même, alors d'abord une petite rectification, c'est pas Urugne-Bidassoa Environnement, c'est Nivelles-Bidassoa, tout court.
Donc
D'accord?
ça c'est de ma faute, excusez-moi.
C'est pas grave. Nous sommes également membres du CADE. Voilà, alors le projet LGV, oui, il en est, bien, le projet LGV continue d'en se lancer. RFF est missionné pour ça par le gouvernement, donc RFF a pour mission de mener à bout ce projet. Voilà, alors, où on en est dans le détail, alors, pour le moment, on rentre dans la phase d'étude qui concerne les sondages de sol, où vous savez qu'on a gêné considérablement la progression de ces sondages. Voilà.
Par rapport à ça, il y a eu une voilà, vous êtes en train de dire qu'il y a eu des actions contre ces sondages. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs en quoi ont consisté ces actions?
Alors, il y a eu des tentatives de sondage de la part d'une entreprise Fondasol qui a été missionnée par RFF pour effectuer donc des vérifications de sol, c'est-à-dire des carottages, etc., de façon à porter dans les études les natures des sols qui vont être traversés par le projet de voie nouvelle. Donc, il s'est agi pour nous d'essayer d'empêcher ces sondages. Alors, il y a des procédures particulières parce qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui a été émis concernant ces sondages et autorisant donc Fondasol à pénétrer dans les propriétés. Or, pour un sondage, il ne suffit pas de pénétrer dans une propriété, il faut également y faire des travaux et y séjourner dans la propriété. Donc, il aurait fallu pour ça que le préfet prenne une autre disposition, c'est-à-dire qu'il édite un arrêté autorisant l'occupation temporaire, ce qui n'a pas été fait. C'est ce que nous avons contesté, et avec un succès, sauf en certains endroits où, bien sûr, les propriétaires étaient d'accord pour que ce sondage se fasse, comme chez M. Berkmans à Arkhangelsk, par exemple. Alors là, le sondage a eu lieu à cet endroit-là, mais les autres points de sondage ont été abandonnés par Fondasol. Et ils sont repris actuellement par deux autres sociétés auxquelles RFF a fait appel, qui sont la société ETI et la société Géotech.
D'accord, donc nous on voudrait savoir quelque chose par rapport à votre association actuelle. Avez-vous créé votre association par rapport à ce projet LGV ou elle existait auparavant?
Non, l'association existait auparavant, elle existe depuis 1992, elle est née lorsque est apparu subrepticement entre Bayonne et Saint-Sébastien un projet d'Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Voilà, c'est un projet comme ça qui est sorti tout d'un coup des cartons, ici à Niparallé, grâce à Monsieur Lamassoure, et par une indiscrétion, on a réussi à savoir qu'il y avait une ligne nouvelle de chemin de fer qui était prévue sur ce projet-là pour traverser l'Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. Alors, on s'est immédiatement réunis, on a fondé donc notre association de défense en disant d'abord, la moindre des choses, ça aurait été de consulter les populations pour savoir s'ils étaient d'accord avec un projet d'Eurocité et quel projet d'Eurocité. En fait, on s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu un masque et qu'il s'agissait surtout de construire des nouvelles voies.
D'accord, mais justement par rapport à votre association, alors quelle action avez-vous menée jusqu'à aujourd'hui?
Alors jusqu'à aujourd'hui, on s'est surtout opposé donc à l'avancement de ce projet. On a surtout étudié les effets de la grande vitesse sur les populations et surtout sur l'environnement, et on s'est rendu compte que en fait la grande vitesse n'apportait pas grand-chose pour les populations et que la grande vitesse est surtout faite pour une élite, ce qu'on appelle une élite circulatoire, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, parce que le train, quand il va circuler sur ces voies nouvelles là, qui sont spécifiques à la grande vitesse, ça coûte très très cher, au détriment d'ailleurs d'autres investissements que pourrait faire RFF ailleurs et qui ne se font pas d'ailleurs. On voit l'état dans lequel se trouve le réseau SNCF actuellement en France. Hein. Et donc, tous ces problèmes-là ont été soulevés et depuis 1992, donc, on est en train de lutter contre ce phénomène.
D'accord. Merci. Alors, aujourd'hui, on peut compter à peu près plus de 22 000 signatures, sans compter les actions qu'il y a eu, les manifestations, les associations qui se sont montées, les sites internet contre ce projet. Et donc, moi, j'aimerais savoir si tout ça va servir à quelque chose réellement. Est-ce qu'on peut nous dire quelques mots pour assurer un peu toutes ces personnes qui ont agi contre ce projet?
Normalement, il y a une convention qui s'appelle la convention d'Aarhus qui a été signée par la France en 2007 et qui concerne toute l'Europe. Et cette convention d'Aarhus prévoit que pour tous les projets concernant l'environnement et les infrastructures, la population doit être consultée et la population a le droit d'apporter des alternatives. Et ces alternatives doivent être prises en compte. Cette convention d'Aarhus a été reprise plus ou moins dans le Grenelle de l'environnement, hein, où le Grenelle de l'environnement reprend un petit peu cet article de la convention d'Aarhus, où les populations, lorsqu'il s'agit de mettre en place des nouvelles infrastructures, la population doit être consultée et elle peut émettre un avis. Hein. Or, tout ça, ça n'est pas fait. Il y a une fausse concertation qui est menée par RFF sur le projet actuel, mais ils n'ont pas varié dans iota en ce qui concerne le projet. Depuis l'origine, on connaît pratiquement le tracé, et au fur et à mesure que le projet avance, on s'aperçoit qu'il confirme de jour en jour le tracé qui était à l'origine. Hein, autrement dit, ça veut dire que tous les avis qu'on a pu émettre, etc., eh bien, on n'en tient absolument pas compte. Alors, donc, ça, c'est un élément de plus qui justifie notre combat.
D'accord, merci. Et quels sont à peu près, vous pouvez nous citer quelques points négatifs par rapport justement à ces villes et ces villages qui vont être traversés par cette ligne grande vitesse au Pays Basque? Quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir? Pouvez-vous nous les expliquer?
Alors déjà, au Pays Basque, on n'aura pas ce qu'on appelle la grande vitesse, hein, c'est-à-dire les trains ne vont pas rouler à 350 à l'heure comme on pense le croire. Hein. Depuis Dax jusqu'à Vitoria, les trains circuleront à 200 à l'heure maximum, 220 à l'heure maximum, hein, c'est la vitesse théorique maximale. Hein. Déjà, il ne s'agit pas de grande vitesse. Ensuite, étant donné qu'un train à grande vitesse, entre guillemets, hein, il est fait pour aller vite, mais pour aller vite, il ne faut pas qu'il s'arrête. D'accord ?
Oui.
Donc, il ne s'arrêtera pas au Pays Basque, et nous, on les regardera passer, les trains. Hein. Il faut savoir que, pour les voyageurs, par exemple, les voyageurs, c'est-à-dire les trains internationaux, donc qui concernent le tronçon d'Axe-Victoria, il y a 8 trains qui sont concernés, 8 trains de voyageurs internationaux. Hein. Alors, donc, on ne va pas construire une nouvelle voie pour 8 trains, hein. Même si le fait de passer par la voie existante pourrait faire perdre quelques minutes par rapport à une nouvelle voie qui serait construite. Hein. Ensuite, on nous a dit que, bon, il faut faire passer le fret, il faut mettre les camions sur les rails. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais le projet qu'il y a, il est un petit peu débile pour la bonne raison, c'est que on met en place une autoroute ferroviaire, par exemple, qui va occuper la moitié de la capacité ferroviaire de ce tronçon-là. Or, une autoroute ferroviaire, il faut savoir ce que c'est, on met des camions sur le train. Hein. Les transporteurs trouvent ça complètement débile pour la bonne raison, c'est que mettre des tares sur des wagons, ça ne sert à rien. Mettre une cabine de camion sur un wagon, ça ne sert à rien. Et la train d'aller de Madrid jusqu'à Berne, par exemple, c'est débile. Hein. Alors donc, nous, on est pour le transfert du fret sur le train, d'accord, mais en ce qu'on appelle un transport combiné, c'est-à-dire des conteneurs. Conteneurs qui peut, disons, l'unité multimodale idéale pour le transport des marchandises. Pourquoi ? Parce qu'un conteneur, il peut voyager aussi bien par bateau, par train que par camion. Hein. Or, c'est pas du tout ça qui est prévu. ça n'est prévu que partiellement. D'autre part, il faut savoir que le Y basque, auquel va être connecté le tronçon de ligne nouvelle ici à Iparralde, ce Y basque-là, il est utilisé essentiellement pour les voyageurs, mais pour les voyageurs à l'Iparralde. Hein, donc il y a très peu de trains de marchandises qui vont circuler sur cette nouvelle voie-là en Pays Basque. Alors tout ça fait que on a calculé, on a les chiffres d'ailleurs exacts du nombre de trains de marchandises qui traverseront la frontière, on sait qu'ils sont au nombre de 94 lorsque les voies existantes en Espagne seront mises aux normes européennes, ce qui n'est pas pour demain. Hein. Et globalement, donc, une fois que ces deux lignes, c'est-à-dire le réseau Y basque plus le réseau classique en Espagne sera rénové, et ces deux réseaux étant à saturation, il y aura la place pour 94 wagons, trains par jour, pardon, 94 trains par jour qui traverseront la Bidassoa. Et 94 trains par jour, ils passent très largement sur la ligne existante actuellement, puisqu'elle a une capacité de 264 trains. Hein, la vérité des chiffres, elle est là, et c'est pour ça qu'on s'accroche là-dessus. D'ailleurs, RFF ne l'a pas démenti, puisque 94 trains, c'est le chiffre émis par RFF lui-même. Donc, au total, on voudrait construire une nouvelle ligne pour 94 trains de marchandises et 8 trains de voyageurs. Voilà. D'accord. La réalité des choses.
D'accord. Mais merci pour ces questions, pour ces réponses. Et donc, on peut conclure que ce projet est totalement négatif pour notre pays, pour le Pays Basque.
Ça n'apportera rien au Pays Basque, contrairement à ce qu'on dit, parce que de toute façon, la grande vitesse, le rôle de la grande vitesse, c'est d'amener des passagers le plus vite possible d'un point très urbanisé à un autre point très urbanisé. Autrement dit, le seul qui tirera profit dans cette affaire-là, ce sera la ville de Bordeaux. D'ailleurs, la ville de Bordeaux, ils ont un projet qu'ils appellent Euratlantique, avec lequel ils comptent faire passer la population de Bordeaux d'ici 2020 à 1 million d'habitants. Hein? Ça veut dire que ce ne sont pas les Bordelais qui vont se reproduire comme des lapins. Hein? Ça veut dire que avec l'arrivée du TGV, ils pensent que tous les emplois qui sont dans un périmètre, disons, de une heure et demie de transport, ils se feront dorénavant sur Bordeaux, ils seront concentrés sur Bordeaux, et les gens iront dormir grâce à un train rapide et un petit peu plus loin. Voilà un petit peu le schéma qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la sururbanisation qui est en train de se mettre en place, la polarisation qui est en train de se mettre en place.
D'accord.
Et merci beaucoup, Pancho. Pour cette interview et à une prochaine fois peut-être.
Oui, il y a encore beaucoup à dire.
On le dira alors.
Entendu.
Merci, à la prochaine.
Merci.
Bye, adios.
Itzatruk, dernier jeudi du mois de 14h à 15h.
Et aussi sur le blog Itzatruk.